OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse 3 et versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, j'ai intitulé tout simplement le message d'aujourd'hui, Lettre à l'église de Laodicée, je vomirai ta tiédeur. Dans le fond, je pense que c'est l'idée fondamentale du texte que le Seigneur veut démontrer jusqu'à quel point il déteste la tiédeur. Comme il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais il n'aime pas qu'on soit tiède. Et on va regarder un petit peu plus loin dans le texte, qu'est-ce que ça implique être tiède pour un chrétien. Alors, j'ai divisé le texte en trois parties. La tiédeur dénoncée par le Seigneur, le verset 14 à 16. La tiédeur déployée, c'est-à-dire que là, le Seigneur va dire en quoi ça consiste leur tiédeur. Tu es pauvre, faible, misérable, pauvre et nu. Il va la déployer. Déployer, ça veut dire qu'il va la montrer dans toutes ses facettes, comme on dit. Et la dernière partie, versets 20 à 22, la tiédeur déplorée, autrement dit, il va leur dire qu'il n'est pas content et il va leur donner des conseils pour sortir de cette situation-là. Alors, le pasteur et érudit William Hendrickson, ceux qui ont déjà acheté le petit commentaire de William Hendrickson sur le livre de l'Apocalypse, résume ainsi la situation que vivaient les églises du premier siècle. Les situations des sept églises écrites et décrites dans ces lettres existaient à l'époque de l'apôtre. Elles se sont retrouvées depuis dans les églises de tous les siècles. Elles existent encore aujourd'hui. Ces sept églises représentent l'église tout entière au long de notre dispensation. Juste un commentaire par rapport à ce qu'il dit. Il est en train de dire que ce qu'on lit dans le chapitre 3, où ce qu'il parle aux sept églises, c'est des choses qui ont existé dans toutes les églises de toutes les époques, de tous les temps, de tous les pays. Alors, c'est ça qui veut faire prendre conscience. C'est bien sûr, il parle à Laodicée avec ses caractéristiques particulières, mais il parle aussi que chacune des églises se termine par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire qu'il y a des messages à l'intérieur de ça qui s'adressent à tous les individus qui composent les églises de toutes les époques, de tous les temps. Alors, il veut prendre conscience de ça, c'est important, parce que sans ça, tu fais dire à l'Apocalypse des choses qu'il ne dit pas. En tout cas. Alors, voici, on continue ce qu'il disait. Il dit, la question essentielle qui se pose est de savoir si elles ont bien accompli leur mission. Ont-elles retenu fermement le nom du Seigneur au milieu de l'obscurité de ce monde, comme on peut le lire dans Apocalypse 1:20? Sont-elles vraiment des chandeliers? Alors, il compare les églises à des chandeliers. Un chandelier, ça a pour mission de donner de la lumière. Si tu ne donnes pas de lumière, à quelque part, ta mission, qui est de donner de la lumière, bien, à quelque part, ça ne se fait pas. Le Seigneur, il n'est pas de bonne humeur, comme on dit. Alors, le monde semble avoir triomphé Alors, ce qu'il fait ici, dans les paragraphes que je vais vous lire, c'est qu'il est en train de regarder les faiblesses de chacune des églises, puis comment le Seigneur veut rétablir les choses. Il dit, le monde semble avoir triomphé à Sardes et à Laodicée. Quand tu regardes deux églises, si tu irais relire le message que le Seigneur l'a dit, tu verrais que le monde semble avoir triomphé. Comme là, dans l'église de Laodicée, le monde, c'est les gens t'ont rendu tellement froid, tellement accaparés par les richesses, par toutes sortes de choses dans la ville, que leur vie chrétienne était rendue uniquement du formalisme. Le formalisme, c'est juste aller au culte pour aller au culte, puis bien paraître, mais ton cœur est pur.
Ouais, ouais.
Alors, c'est ça qui se produisait. Donc, le monde semblait avoir triomphé à Sardes et à Laodicée. La lumière est bien vacillante et semble près de s'éteindre. Dans ces deux églises-là, l'église qui est supposée être un chandelier, la lumière, elle s'en allait comme ça, puis elle était sur le bord de s'éteindre. Alors, c'est normal que le Seigneur dise, « Oh! » Comme église, tu es supposé de faire d'autres choses. La lumière d'Éphèse, quant à elle, est encore bien visible, mais elle va diminuant. À Pergame et à Thyatire, où le monde exerce une forte pression, la lumière brille, mais son éclat n'est pas ce qu'il devrait être. Les églises de Smyrne et de Philadelphie remplissent pleinement leur rôle de chandelier et répandent leur lumière fidèlement pour Christ. Elles exercent ainsi sur le monde une réelle et bienfaisante influence. Chacune des sept lettres pose cette même question. L'Église est-elle vraiment un chandelier? Est-elle fidèle au Seigneur au milieu du monde? C'est très intéressant de voir ça comme ça. Dans ce moment-là, on voit que le Seigneur parle à sept églises différentes, avec des problèmes différents, des forces différentes, mais à chacune, il donne des conseils, à chacune, il donne aussi des réprimandes quand c'est le cas, et à chacune, il donne des moyens pour sortir de leur situation s'ils sont négatifs. Alors, on continue. La tentation de devenir mondaine et de renier Christ assaillait l'Église de trois côtés. Le premier, la persécution antichrétienne, l'épée, les bêtes sauvages, le bûcher, la prison, et les incessantes accusations des Juifs contre les chrétiens devant les tribunaux romains. T'es en train de te faire conscience que l'Église est appognée avec des pressions qui venaient de trois bords. Le premier, c'est ça, comme il dit, la persécution antichrétienne. Tu avais l'épée, ce qu'il veut dire par ça, c'est que les Romains, ils cherchaient à imposer le culte à l'empereur de façon forcée. Quand il parle de bêtes sauvages, c'est pas uniquement la question des bêtes sauvages qui se faisaient manger, mais la question, des fois, c'était un peu symbolique. Le bûcher, des fois, il se ramassait sur le bûcher, il se ramassait en prison. Et il y avait les Juifs, qui étaient des ennemis des chrétiens, qui n'arrêtaient pas d'aller dénoncer aux Romains. « Regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font. » Le but, c'était de les arrêter. C'était de la jalousie. Alors, il y avait déjà, c'était s'arrêter comme quasiment suffisant, comme pression. Mais il y en avait un autre. Le second, très proche du précédent, la religion romaine et le culte de l'empereur. On a vu que la religion romaine, quand on dit la religion romaine, ça s'exprimait sous une multiple forme d'idolâtrie. Parce que les Romains avaient une multitude de dieux, de temples où les gens allaient adorer leurs dieux, qui étaient des faux dieux, donc c'était de l'idolâtrie. Et il y avait quelque chose de nouveau qui s'est installé chez les chrétiens de cette époque-là, le culte de l'empereur. L'empereur romain, qui était rendu, qui se prenait pour Dieu lui-même et qui exigeait qu'on y aille l'adorer. Et ceux qui ne le faisaient pas, ils se mettaient vraiment en difficulté, là, en très grave difficulté. Et la troisième, c'est qu'il y avait la tentation de la chair, comme quand on dit de nous, quand on dit la chair, on parle de notre nature pécheresse. Donc, il y avait des invitations à se joindre aux fêtes païennes qui étaient immorales. Et tout cela avait pour but de continuer à garder ta position sociale et à jouer des plaisirs du monde. Imaginez, il disait, comme on avait vu, comme quand il disait Jézabel, c'était quelqu'un dans une église qui avait de Jacques Nguyen, qu'on pourrait dire, elle avait de l'influence, elle cherchait à dire aux chrétiens, « Ah, tu peux y aller, les affaires des, tu peux participer à leurs affaires d'orgie, pas grave, t'es au-dessus de ça. » Alors, dans le fond, il est en train de montrer toutes les troubles qui existaient aux églises du premier siècle. Dans le fond, on peut regarder ça puis dire, « Ah, nous autres, ils ne nous demandent plus d'endurer la frappe. Nous autres, ils ne nous demandent pas d'aller l'épée et toutes ces affaires. » Mais il y a toujours l'équivalent, même dans les églises modernes, quelque chose d'une pression qui nous vient de l'extérieur, qui cherche à vouloir nous emmener en dehors des églises chrétiennes. Alors, ça dit, l'église était dans le monde, elle l'est encore aujourd'hui. C'est dans les ténèbres que l'église doit briller. Alors, bien entendu, je cite à Hendrickson, c'est lui qui fait cette observation-là, je trouve ça, vu qu'elle était très bonne, je lui dis, on va la mettre dans le sermon. Maintenant, si on veut vraiment apprécier qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qu'elle vivait, il faut comprendre les circonstances sociales, économiques, politiques, tout ce qui se passait dans cette ville-là. Parce que là, le Seigneur, il ne s'adresse pas à une Église, il la nomme. L'église de Laodicée. Donc, à quelque part, c'est important de voir qu'est-ce qui se passait dans cette église-là pour comprendre dans quel milieu elle se trouvait, quelles étaient les influences qu'elle subissait, ces affaires-là. Donc, premièrement, on va regarder le côté géographique. Sa situation de Laodicée était très favorable. Il y avait trois grandes routes commerciales de l'époque. Et il était les routes commerciales sont comme là. Elle était, avant de rentrer dans la route commerciale, c'était comme s'il était au carrefour. Alors, il était situé géographiquement dans une position très, très avantageuse. Ça faisait d'eux un centre, comme des centres commerciaux. Quand on parle de centre commerciaux, on ne parle pas d'un shopping center, là. On parle, ça faisait un centre où le commerce allait dans toutes les directions à partir de chez eux. Donc, ça faisait en sorte que la ville de Laodicée jouissait d'une grande prospérité. À quelque part, on le sait, la vie chrétienne et la prospérité, souvent, la prospérité finit par nous amollir, comme on dit. Donc, géographiquement, on comprend où ce qui était situé, puis c'était quelle influence la géographie avait sur leur vie spirituelle. Et aussi, la Odyssée était aussi stratégique du point de vue administratif et religieux. Donc, c'était un endroit où les Romains avaient des centres administratifs. C'était un peu comme aujourd'hui, au Québec, ce serait comme la ville de Québec. La ville de Québec, c'est hautement administratif pour toutes les affaires du gouvernement, mais eux, c'était l'équivalent à l'époque. Et la même chose pour le côté religieux. On trouvait dans cette ville-là à peu près tout ce qu'on pouvait trouver de cultes orientaux, qui venait tout partout parce qu'il était un petit peu à la porte de rentrer dans le côté oriental. Et il y avait tout ce que les faux grecs, toute l'idolâtrie, les faux dieux étaient présents dans cette ville-là. Donc, ils étaient riches, puis il y avait l'idolâtrie tout autour d'eux autres. Autre facteur qui est important pour comprendre leur situation, parce que le Seigneur va faire des allusions qu'on comprend mieux si on tient compte du fait qu'il y avait une importante colonie juive. Autrement dit, dans chacune de ces villes-là, aujourd'hui, ils sont capables de déterminer combien à peu près de juifs, comment ils peuvent faire pour savoir ça, je disais ça dans mes commentaires, parce qu'ils peuvent le savoir à cause des offrandes que les juifs envoyaient à Jérusalem chaque année. Tu sais, il fallait qu'ils envoient un montant d'argent. Là. Ben, ils peuvent déterminer par le montant d'argent qui arrivait à Jérusalem combien de personnes venaient de cet endroit-là. Alors, elle comptait une colonie juive très importante. De 20 à 30 000 personnes. Hey, c'est du monde, là. Quand tu parles de 30 000, disons que la ville est à 300 000, ben, ça veut dire que c'est 10 % de la population qui était des juifs. Si c'était des juifs, les juifs étaient des ennemis de la vie chrétienne. Alors, ça faisait en sorte que ça faisait un endroit où il y avait beaucoup d'ennemis de l'Évangile, qui te dénonçaient continuellement. Donc, ils étaient des gens très influents parce que les juifs, une de leurs caractéristiques, un petit peu partout, ce qui restait à cette époque-là, c'était les juifs ont toujours été des commerçants, des gens influents. Donc, c'était des gens qui contrôlaient l'économie jusqu'à un certain point. Et à quelque part, le fait qu'il y ait 30 000, alors si, non seulement il y en a 20 à 30 000, mais s'il y en a 20 à 30 000 qui sont riches et influents,
ouais.
ça fait encore plus dangereux. Et elle était aussi, autre facteur, elle était menacée par ce qu'on pourrait appeler l'hérésie colossienne, la séduction du gnosticisme. Quand on va voir dans Colossiens chapitre 2, verset 1 à 9, on ira pas là voir ce matin, mais c'est juste l'idée que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de faux enseignants qui développaient l'idée du gnosticisme. Le gnosticisme, c'est la connaissance de Dieu par la connaissance. C'était un peu l'équivalent d'aujourd'hui de ceux qui veulent aller dans des sectes qui prétendent connaître Dieu par des moyens autres que par Jésus-Christ. Le gnosticisme, autrement dit, c'est la connaissance de Dieu par la connaissance humaine, par un genre d'initiation. Alors c'était beaucoup, et cette ville-là était un petit peu sous ce danger-là. Et on dit aussi que la ville aurait pu jouer un rôle de premier plan dans la défense du pays. Il y avait un point faible. Pourquoi? Tout à l'heure, on va voir que par le texte, quand il parle d'eau tiède, ça a un rapport avec la situation de la ville. La ville de Laodicée, elle aurait pu jouer un rôle de premier plan dans la défense du pays, mais elle avait un point faible. Et sa faiblesse militaire, c'était à cause que tu ne pouvais pas trouver d'eau dans cette ville-là. L'eau qui arrivait à la ville, c'était de l'eau qui était tiède. Donc, cette eau-là venait de loin d'eau, de plus de 10 kilomètres. C'était pas une ville qui était autosuffisante en eau. L'eau venait de loin, puis quand elle arrivait dans la ville de la Odyssée, elle était tiède. Donc, elle faisait venir de l'eau d'au-delà de 10 kilomètres par un aqueduc qui était impossible à cacher. Si ta source d'eau dans une grosse ville, tu peux pas la cacher, puis t'es attaqué par l'ennemi, la première chose qu'ils vont faire, qu'est-ce que tu penses? Ils vont te couper ton eau. Puis en n'ayant plus d'eau, ben la ville est obligée d'abandonner. Alors, c'est toi qu'elle avait. Alors, elle avait un défaut au point de vue de sa défense militaire, c'est qu'elle avait un aqueduc qui était impossible à cacher, de là, l'eau qui était tiède, et l'eau de tout le district avait un caractère émétique. Si tu prends un dictionnaire, tu regardes ce que ça veut dire, émétique, c'est qui fait vomir. Donc, tu avais une eau qui avait une qualité que tu buvais ça, puis ce que ça faisait, c'est que ça te faisait vomir. Pas pour rien que le Seigneur utilise l'image de « je te vomirai de ma bouche », parce que ces gens-là, pour eux, ils comprenaient là, ce que le Seigneur est en train de dire. Mm-hmm. C'est sûr que nous, aujourd'hui, si on n'a plus ces informations-là dans notre esprit, on comprend pas vraiment.
Ouais.
Alors, la ville était aussi très riche grâce à son commerce et à ses industries. Autre chose importante à considérer, quelles étaient les industries de cette ville-là pour qu'on comprenne. Alors, c'était une ville de banquiers. Certains citoyens de la ville possédaient de grandes fortunes avec lesquelles ils contribuaient au bien public. Donc, la ville était tellement riche qu'il y avait plusieurs personnes très riches de la ville. Alors, la Odyssée avait subi des contre-coups, des tremblements de terre des années 17 et 60, mais elle répara ses ruines sans aide extérieure. Lucie va répondre. Donc, il y avait eu des tremblements de terre, et il était tellement riche que les gens de la ville étaient capables de tout rebâtir la ville sans aide extérieure. Même on dit que sous Néron, quand il y a eu ces tremblements de terre-là, en 17 et en 60, en l'an 17 et en l'an 60, ils ont refusé l'aide que Néron leur offrait pour reconstruire la ville. Faut-tu que tu n'aies de l'argent en ce temps-là? Pour qu'une ville dise, oh ben, c'est comme si aujourd'hui on aurait un gros problème, puis qu'on dirait, le gouvernement nous offrirait de nous aider, puis on dirait, oh, pas besoin. On a de l'argent. Alors, c'était la situation. Pour ça, quand il dit, tu es pauvre et nu, eux disaient, je suis riche, à quelque part. Alors, sur les édifices reconstruits, pour montrer comment il était orgueilleux, pour ça que le Seigneur dit « Tu es pauvre, misérable, pauvre et nu ». Sur les édifices reconstruits, il avait fait inscrire une phrase en latin, en romain, qui veut dire « On a reconstruit par nos propres forces ». C'est marqué sur les édifices, là. Un peu comme aujourd'hui, si on mettrait quelque chose sur un édifice, « Par nos propres forces ». Alors, c'était vraiment des orgueilleux. Alors, il était rendu riche, prospère, orgueilleux. Et autre chose qui nous aide à comprendre, quand le Seigneur parle de vêtements blancs, eux, la richesse de la ville, c'était la laine noire. Il y avait une qualité de laine noire qui était très prisée à l'époque, qui valait beaucoup d'argent, et ils étaient devenus riches à cause de cette laine noire-là, qui était très fine et très recherchée. Autre chose qui nous aide à comprendre le texte un petit peu plus loin, c'est le fait que cette ville-là était célèbre pour son école de médecine. Et elle avait développé deux grandes spécialités qui étaient courues à l'époque. Un onguent pour les oreilles et un collier pour les yeux. Donc, à quelque part, c'est pour ça qu'on va voir dans le texte, quand on sait tout ça, puis qu'on regarde les paroles que le Seigneur dit, là, pour eux, ils devaient comprendre beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, au cours de son histoire, Laodicée avait été grandement abusée par des gouverneurs rapaces. Alors, on sait qu'à ce moment-là, les villes, c'était pas un gouvernement souvent régional ou même national, c'était les villes qui se gouvernaient. Puis quand tu tombes sur une ville où que le gouverneur de la ville, c'est un rapace qui cherche juste à exploiter le monde, bien, quelque part, il y a des autres choses qui sont mentionnées dans le texte qui nous aident à comprendre ça. Donc, les rapaces, ils cherchaient à obliger le peuple de Laodicée à payer un tribut. Ils obligeaient à loger et à nourrir des soldats et même à leur faire payer quotidiennement un salaire aux soldats. Fait que si tu vis dans une ville comme ça, où on t'exploite financièrement et qu'en plus les Romains arrivent chez vous, puis là t'es obligé de les loger, t'es obligé de les nourrir, à quelque part, c'était pour eux. Alors par contraste avec ses habitudes, le Christ refuse de s'imposer à l'hospitalité des Laodiciens. Quand le Seigneur dit « Je suis à la porte, je frappe, ouvre et je vais rentrer », il montre qu'il n'est pas le même genre de caractère que ceux qui les gouvernaient. Alors, on voit là les deux types de gouverneurs, un gouverneur qui abuse, puis un gouverneur, le Seigneur est bien plus qu'un gouverneur, il cogne à la porte, lui. Alors, on voit la différence là, de l'approche. Alors, lui, le Seigneur, il se tient à la porte, il frappe, attendant que volontairement, on lui ouvre, alors que eux, tout était imposé, tout était. Alors là, on arrive au premier point, la tiédeur de la Laodicée qui est dénoncée. Verset 14 à 16, on les relit. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. « Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je vois pas quel dos de la cuillère, je trouve. Mm-hmm. Le Seigneur est très sévère. Des fois, quand on veut voir ces vérités de Dieu, on prend un verset comme ça. Mm-hmm. « Vomir de ta bouche », il parle de qui, là? Il parle de personnes qui professent être chrétiens. Puis tu dis « Je vais te vomir de ma bouche ». C'est pas des mots... léger, tu parles de vomir, et quand on vomit, ça nous écœure, ça nous... Bon. Alors, remarquons une fois de plus que le Seigneur commande que son message soit fait par écrit, le premier mot c'est écrit, et qu'il soit adressé au pasteur de l'église de Laodicée. Parce qu'on a déjà mentionné dans les autres leçons que quand il parle de l'ange des églises, il parle au pasteur. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut? Écrit au pasteur. Autrement dit, écris au pasteur, parle-y dans le nez un peu, là. Pour que, comme leader, lui, comme leader responsable, il instruise et sensibilise les membres de cette communauté à ses besoins et à ses misères. Intéressant de voir aussi, des fois on remarque pas ça, puis on prend pas la peine d'aller fouiller le dictionnaire, mais le mot même « Laodicée », comme des fois on dit le « Laos », « Laos », ça vient de « peuple ». Okay. C'est le mot, la notion de peuple. Alors, le mot Laodicée signifie justice du peuple. Très intéressant de voir que c'est la justice du peuple. Autrement dit, la manière dont les gens administraient leur vie spirituelle, ça venait plus des idées du peuple que de la Bible. Très intéressant, même le nom. Quand on lit les Écritures, moi, je dis quelque chose, je suis de plus en plus sensible à ça. Il n'y a pas un mot des Écritures qui a été mis là pour rien. Des fois, on dit, c'est juste la Odyssée. Hein? Mais regarde, lis tout ça. Tout communique dans les Écritures. Et la chose à remarquer dans tout cela, c'est que vraiment, quand le Seigneur fait une dénonciation, il le fait pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, il le fait lui-même, le Maître, celui qui est venu ressuscité et crucifié, qui était exalté, monté au ciel, c'est lui qui dit, écrit, il dit à Jean, l'apôtre Jean, écrit au pasteur, puis voici ce que tu vas lui dire. Alors, verset 14, il est énoncé par Christ lui-même, écrit aussi à l'ange de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. On l'a mentionné dans d'autres leçons. À chaque fois que le Seigneur s'adresse à une église, il utilise un titre particulier qui correspond aux besoins et à son autorité. Il veut démontrer quelque chose par rapport à lui-même et par rapport à leurs besoins. Et si on prendre le temps d'étudier les sept et de regarder la situation de l'Église et quel titre le Seigneur utilise pour leur parler, c'est de toute beauté. Le Seigneur est d'une grande intelligence pour utiliser ces mots-là. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, il utilise trois choses. Alors, on a déjà mentionné que le Seigneur ajuste vraiment toujours son nom, le nom qu'il utilise pour s'identifier, pour répondre de façon appropriée aux besoins précis des siens. Dans le verset 14, il se sert de trois noms. L'Amen. Le Seigneur Jésus utilise volontairement ce nom personnel divin. Ici, ce qui est intéressant, c'est noter que le mot Amen, c'est pas dans le sens de la fin d'une prière. Le Seigneur lui-même utilise ce titre-là par rapport à lui-même. C'est un titre divin. Voici ce que dit Jésus le divin. C'est ça comme s'il dirait ça. Volontairement, c'est un nom qui est personnel, l'Amen, celui de la deuxième personne de la Trinité. Il est le Dieu de la vérité et la vérité elle-même. Quand il dit l'Amen, souvent, quand on dit Amen, souvent on fait une prière, après ça on dit Amen, qu'il en soit ainsi. Et ça veut dire aussi vérité, vérité, c'est juste la vérité. Alors, il est le Dieu de la vérité. Et plus que le Dieu de la vérité, il est la vérité elle-même. C'est pour ça qu'il utilise l'Amen, parce que ses besoins, les gens-là sont dans la confusion spirituelle et ont besoin de se faire dire des choses qui sont absolument sûres que c'est vrai. Alors, il se sert dans le verset 14 vraiment de ce titre-là. Les Laodiciens peuvent donc lui faire absolument confiance. Vois-tu, ils sont habitués d'être gouvernés par des gens rapaces puis qui les exploitent. Puis c'est sûr, d'habitude, ceux qui exploitent les contours des menteries, hein, sont habitués de se faire mentir. Là, ils ont besoin de se faire dire « Qu'est-ce que je te dis? Ça, fie-toi dessus, c'est vrai. » Ensuite, quand ils utilisent le mot « le témoin fidèle et véritable », un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui observe, puis qui peut rapporter qu'est-ce qu'il a observé de façon fidèle, puis de façon vraie. Si ça nous arrivait d'être victime d'un crime, puis qu'on aurait deux, trois témoins, qu'est-ce qu'on voudrait d'eux? Dis ce qui s'est passé, puis dis la vérité pleinement et fidèlement. N'en rajoute pas, puis ne l'enlève pas. Donc, un témoin, c'est une personne qui entend et qui peut rapporter ce qui est entendu pour en garantir l'exactitude et aussi l'authenticité. Le Seigneur ajoute au mot témoin deux qualificatifs qui sont ajoutés à son titre, fidèle et véritable. Le Seigneur veut signifier que ses observations sont minutieuses, rigoureuses et entières. Qu'est-ce que le Seigneur il voit dans son omniscience? Exactement dans les moindres détails, tout ce qui se passe dans cette ville-là. Fait que quand il dit « Je suis le témoin fidèle et véritable », qu'est-ce qu'il est en train de vouloir leur dire? C'est basé sur une observation, un témoin. Mm-hmm. Donc, c'est minutieux, dans les moindres détails, c'est rigoureux, il n'en dit pas plus, il n'en dit pas moins, c'est entier. Donc, toutes ces paroles sont la vérité absolue. Donc, dans ce qu'il va dire, rien de factice, rien d'imaginaire, rien de prétention. Et il termine par le troisième titre qu'il utilise pour parler de lui-même, le principe de la création. Alors, le Seigneur Jésus s'identifie ici dans son rôle de créateur divin. Et il dit, écoutez, celui qui parle, c'est le Dieu, c'est son titre divin, puis en plus, il utilise le mot « Je suis le créateur ». Hey, il est en train de dire aux gens de la Odyssée, pas n'importe qui te parle, là. Ouais. C'est ton créateur, le créateur divin. Alors, il est le leader. Quand on parle de principe de la création, il est le commencement, le premier, l'origine, la cause active de toute chose, le premier parent ou la cause première de toute la création et de toutes les créatures et aussi de la nouvelle création. Bien important, il n'est pas juste la création physique. Mais si nous jouons, aujourd'hui on est des chrétiens, nous sommes une nouvelle création, que ça dit, ou une nouvelle créature, dépendamment des versions, mais il y a des versions qui disent on est une nouvelle création. Donc quand on parle d'un chrétien, on est une création de Jésus, de Christ. Alors très important, quand il mentionne ces trois titres-là, c'est sûr que ça a un rapport direct avec la situation que les gens de l'époque vivaient. Et dans le verset 15, on voit une autre caractéristique de sa dénonciation. C'est une dénonciation omnisciente. Omni, ça veut dire « je sais tout ». Donc, quand il dit « je connais », il y a deux mots là-dedans importants, je les mets en gros, ceux qui ont les textes. « Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. » Alors, le regard du Seigneur, vraiment, dans ce passage-là, on voit que c'est un... Tu sais, des fois, il y a un chant qu'on chante, « Seigneur, à ton regard de flamme. » Le regard du Seigneur, il pénètre toute chose, puis il pénètre à la perfection, puis il pénètre profondément. Alors, sa connaissance de l'état spirituel des Laodiciens est infaillible et absolue. S'il leur dit, froid ou bouillant, t'es tiède, c'est parce qu'il se base sur des faits, il se base sur des choses qu'il a observées. Donc, l'Église ne manifestait plus aucun zèle, elle ne reçoit aucune approbation du Seigneur dans ce passage-là. C'est très intéressant à noter. Les autres Églises, des fois, il y avait des approbations, zéro, l'Église de Laodicée. Et elle ne savait plus comment se comporter à la fois pour Dieu et à la fois contre ses ennemis. Autrement dit, il était rendu dans un état spirituel tel qu'il ne savait plus comment adorer correctement, puis il ne savait plus comment combattre les ennemis de Dieu correctement. Fait qu'il était rendu, ça faisait dur, comme on dit. Alors, elle n'était pas hostile extérieurement aux choses du Seigneur. C'était pas une église qui, extérieurement, manifestait des choses contre le Seigneur. C'était une petite église, là, tu sais, dans la richesse. Souvent, là, tu vas aller va dans une grosse ville, là, puis va-t'en dans des églises où que les riches fréquentent. C'est souvent très formaliste. Tout baigne dans l'huile, tout est tranquille, tout est... Souvent, c'est ça la richesse que ça l'amène.
C'est ça que ça veut dire, le mot hostile?
Hostile, ça veut dire ennemi.
OK.
Elle n'était pas hostile extérieurement aux choses du Seigneur.
Non.
Elle ne bouillait plus d'amour envers son Sauveur et son Seigneur. Et elle ne réussissait aucunement à enflammer les païens autour d'eux à la cause de Christ. Ouais. Son opposition et son combat des péchés, des erreurs doctrinales et de la vie pratique étaient insignifiants. Ouais. Elle acceptait le compromis et avait adopté des comportements d'indifférence, de froideur, de cardinalité, de formalisme et de mondanité. Trouvez-vous que ça ressemble un petit peu aux églises modernes quand on observe la situation chrétienne dans le monde en général? Je parle pas de notre église en particulier, quoi qu'il doit y avoir un peu de tout ça dans la nôtre aussi. Mais quand il dit, il y a de l'indifférence, il y a de la froideur, la carnalité, ça veut dire la chair, on laisse la chair dominer à l'intérieur de l'église. Le formalisme, ça veut dire qu'on fait les choses, on n'abandonne pas de faire des cultes, mais le cœur est plus là. C'est juste, on sait ce que c'est du formalisme, mais c'est rendu comme ça. Et de la mondanité, autrement dit, c'était très fort en termes de mondanité dans l'église de la Laodicée, et le Seigneur leur reproche. Alors, le Seigneur veut leur signifier qu'il est cette attitude. Il ne va pas que le dos de la cuillère. Quand le Seigneur dit « J'haïs ça, le Seigneur. » Alors, vraiment, au point, et leur manière d'agir, bien entendu, au point où qu'il les menace de les vomir si ça ne change pas. À quelque part, je trouve que ça parle très fort. Il y en a beaucoup aussi, quand tu lis les commentateurs modernes sur l'Apocalypse, ceux qui ont tendance à prendre les sept églises et en faire des périodes historiques. Disons, ils vont dire, bon, Éphèse, c'est 100, 300, 300, 600. Ils ont tendance à mettre les deux dernières, l'église de Philadelphie, comme la plupart qui font ça, ils disent, ah, ben nous autres, on est rendus, on est une église missionnaire, on est une église qui s'occupe des pauvres, on est une église qui continue à avancer l'Évangile. Puis, ils voient l'église de Laodicée comme étant celle des derniers temps. D'aujourd'hui, ils la voient comme... Quoi qu'il peut y avoir un peu de vérité du fait qu'il l'a mis la dernière là-dedans. Mais c'est une fausse interprétation que de prendre chacune des églises puis de leur donner des périodes historiques comme ça. La preuve, elle est simple, la preuve, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Donc, si ça ne sert à plus rien à dire à toi, il n'y aura pas dit aux églises, il aura dit à l'église de la Laodicée. Et dans le verset 16, ben là, bien évidemment, on voit que la dénonciation est faite par le Seigneur lui-même. Elle est faite avec sévérité, et plus que sévérité, une menace qui est ajoutée à la sévérité. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le verbe est au futur, mais il est en train de dire l'observation que je fais est tellement grave, enlignez-vous, sinon... Bon, alors il est fort probable, comment on peut interpréter le verset, que l'Église était remplie de professants. Moi, ce que j'appelle un professant, c'est quelqu'un qui dit croire, mais que sa vie démontre sa vie n'est pas ajustée. Son comportement n'est pas ajusté. Alors, un professant, alors si le Seigneur est en... Mais ce qu'on voit dans le texte aussi, c'est que le Seigneur parle aux professants. À l'intérieur des églises aujourd'hui, tous les pasteurs, parle à n'importe quel pasteur qui a de l'expérience un peu, va te dire, qui est conscient que dans l'intérieur de l'église, lui-même identifie certaines personnes comme « il n'est pas sûr de s'est sauvé ». Ça ne démontre pas grand signe de salut. Mais ça veut dire que, comme pasteur, tu as la responsabilité d'essayer de réveiller ces gens-là. Tu as la responsabilité de les maintenir sous l'influence de l'Évangile. Sinon, ces gens-là, quand le Seigneur dit « Vous vomirez de ma bouche », après que c'est vomi, c'est fini. Alors, l'Église de la Laodicée avait des caractéristiques. Elle était tiède. Elle manquait d'ardeur. Elle manquait de ferveur, elle manquait de conviction. Le désir et l'action allant dans le sens d'une authentique sanctification faisaient cruellement défaut. Autrement dit, l'idée de désirer te sanctifier, l'idée de prendre des gestes concrets qui vont dans le sens de la sanctification, ça faisait cruellement défaut. Quand tu es froid, ça peut être un païen qui ne connaît rien à l'Évangile. Mais quand il est tiède, c'est que tout ce qui est vraiment qui plaît au Seigneur, c'est pas là. Alors, il était glissé, toute la gang, une grande partie d'entre eux était glissé dans l'hypocrisie du formalisme. Autrement dit, la religion pour toi s'est rendue juste un christianisme du dimanche, qu'on pourrait dire. Dans la semaine, tu vis n'importe comment, mais le dimanche, tu vas au culte pareil. Mm-hmm. Alors, ils ne concentrent plus leurs efforts sur la gloire de Dieu et sur les intérêts de Christ. Le Seigneur déteste cet état au point de les menacer, de les vomir de sa bouche. Nous pouvons cependant apercevoir la patience et la miséricorde du Seigneur par le fait que le Verbe est au futur. Quand il dit « je te vomirai », il ne dit pas « je te vomis », il dit « je te vomirai », mais on voit que c'est accompagné aussi de recommandations, de reproches, de réprimandes, et en voulant dire « enlignez-vous ». Alors, il est au futur, et que le Seigneur, en la mettant au futur, c'est en train de dire à l'Église qu'il pouvait être composé uniquement de professants, il est temps que vous améliorez votre situation. Sinon, c'est sûr que le verbe « je te vomirai de ma bouche », ça l'implique, c'est un rejet. Mm. Wow. Alors le rejet, c'est sûr que si le Seigneur te rejette, c'est pas en train d'annoncer qu'une perte de salut. C'est que le Seigneur a toujours annoncé dans les Écritures qu'à l'intérieur des églises, quand vous regardez les passages où ça dit, les anges ont dit, voulez-vous qu'on... Il dit, le blé et l'ivraie. Les anges ont dit, veux-tu qu'on y aille enlever l'ivraie de parmi le blé? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Non. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la fin, et c'est au moment du jugement qu'il va faire la part des choses. Mm-hmm. Alors, il est en train de dire, ici, on n'est pas en train d'annoncer la perte du salut, que... Il est en train d'annoncer que fort probable que dans l'Église, il y avait des professants uniquement qui n'avaient pas un comportement qui correspondait à ce qu'ils disaient croire. Okay. Puis quand le Seigneur dit « je te vomirai de ma bouche », ça veut dire que c'est un rejet. Ça veut dire que tant que tu es dans l'Église, même si tu n'as pas le comportement qu'il faut, même si tu n'es pas régénéré, au moins tu es encore sous l'influence de l'Évangile, tu entends encore le Christ qui te parle. Parce qu'à la fin, il va leur dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, très important de voir cela. Alors, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, on va arrêter là et on terminera tout cela la semaine prochaine.